Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Florian Delorme.
Et place à notre question du jour. La maladie d'Alzheimer est connue pour être une maladie neurodégénérative, incurable, avec une perte progressive de neurones et du tissu cérébral qui entraîne la perte progressive des fonctions mentales et notamment de la mémoire. Aujourd'hui, 900 000 personnes souffrent d'Alzheimer en France, un chiffre qui pourrait atteindre environ 1,3 million en 2020 avec l'augmentation de l'espérance de vie. C'est en tout cas ce que dit l'INSERM. Mais si ces personnes ne souffraient pas d'une véritable pathologie validée par des critères scientifiques précis, mais qu'elle était plus simplement le résultat presque normal, j'allais dire, du phénomène du vieillissement. C'est en tout cas ce que pense notre invité du jour. Bonjour Olivier Saint-Jean.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de gériatrie, directeur du service de gériatrie de l'hôpital européen Georges Pompidou et membre de la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé. Vous êtes par ailleurs enseignant à Paris Descartes. Vous défendez l'idée, vous venez de signer un ouvrage avec Éric Favreau intitulé Alzheimer, le grand leurre, qui est paru aux éditions Michelon, et vous défendez l'idée selon laquelle ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie au sens où elle n'est pas une pathologie, mais plutôt une construction sociale du phénomène de vieillissement. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'Alzheimer n'est pas une pathologie?
Aujourd'hui, il n'y a aucune donnée scientifique qui permette d'éliminer cette hypothèse, qui veut que finalement ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer, ça soit la partie extrême d'un gradient de déclin cognitif qui touche toute la population à des degrés divers. C'est une maladie assez étonnante car c'est probablement le seul cas où il y a un découplage entre les lésions anatomiques et ce qu'on observe cliniquement chez les patients. Et ce qui explique la différence dans les études, ce sont des phénomènes psychosociaux, c'est-à-dire le niveau d'éducation, les comorbidités et peut-être aussi le regard porté sur l'existence.
Oui, selon vous, et c'est ce que vous écrivez dans l'introduction de votre livre, cette maladie d'Alzheimer, elle serait surtout la dérive d'une évolution qui a transformé la vieillesse en pathologie. C'est ce que vous dites, page 10, c'est que tout ça, finalement, cette pathologisation de la vieillesse, elle révèle une tendance plus générale à vouloir tout pathologiser. Mais quand même, les causes précises de la maladie d'Alzheimer sont effectivement pas parfaitement identifiées, mais les travaux de recherche montrent qu'il existe chez les personnes concernées des lésions au niveau du cerveau. Ce que vous dites, ce que vous venez de nous dire, c'est qu'en réalité, presque toutes les personnes âgées ont des lésions cérébrales, mais que toutes n'ont pas des troubles cognitif et donc non pas Alzheimer. Donc il n'y a pas de lien de causalité entre les deux. Mais précisément, si la maladie d'Alzheimer n'est pas une pathologie, mais le simple résultat du vieillissement, comment expliquer que toutes les personnes âgées, touchées par des lésions cérébrales, ne soient pas atteintes de troubles cognitifs? Le fait précisément que seul un pourcentage soit concerné ne prouve-t-il pas justement qu'il s'agit bien d'un dysfonctionnement lié à une pathologie?
Ce qui est impressionnant, c'est que d'une part, tous les sujets âgés ont ces lésions dans le cerveau et que d'autre part, au fur et à mesure des années, apparaissent à des degrés divers des éléments de déclin cognitif. Alors, bien sûr, tout dépend de l'endroit d'où partent les gens. Mais je n'ai jamais rencontré dans ma carrière des gens très 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 âgés qui aient des fonctions cognitives parfaitement préservées. Pendant très longtemps, nos sociétés ne connaissaient pas les vieux. Et finalement, lorsque des cohortes importantes de sujets âgés sont arrivées dans les années 70, on s'est trouvé très démunis sur le plan théorique et notamment, et ma discipline, la gériatrie, a beaucoup collaboré, on a fait l'impasse de la réflexion scientifique sur qu'est-ce que c'est que le vieillissement. Et on reste quand même aujourd'hui dans une société triomphante où on doit triompher de tout, y compris du vieillissement et de la mort.
Olivier Saint-Jean, oublions la vieillesse. On diagnostique parfois la maladie d'Alzheimer chez des patients relativement jeunes. Est-ce que cet Alzheimer chez les jeunes n'est pas la preuve qu'il existe bien une pathologie?
Alors, d'abord, il y a différentes maladies neurodégénératives qu'on a à tort étiquetées Alzheimer. On a mis quand même une vingtaine d'années dans les années 90 à découvrir ces autres maladies. Et puis, on peut aussi mettre en avant l'hypothèse que on va dire que tous les phénomènes biologiques se répartissent en gradients, qu'il y a des extrêmes, qu'il y a des gens qui s'en sortent extraordinairement bien, et puis d'autres qui, malheureusement, pour des raisons inconnues, vont développer finalement des phénomènes de vieillissement très 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 tôt.
La question des médicaments et des laboratoires. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de médicaments qui sont utilisés dans le traitement des troubles cognitifs. Or, leur efficacité, visiblement, est très discutée. En 2006, par exemple, la Haute Autorité de Santé avait estimé que leur efficacité était au mieux modeste, sans pertinence clinique, et préconisait même l'arrêt de leur remboursement par la Sécurité sociale. C'est un avis qui n'avait pas été suivi. Dans quelle mesure est-ce que les laboratoires sont-ils responsables de la pathologisation de la vieillesse que vous soulignez? Et pour le dire autrement, est-ce qu'ils font croire qu'il existe bien une pathologie pour mieux vendre leurs médicaments?
Les laboratoires ne sont pas les seuls responsables. On se rend compte que tout le monde avait intérêt.
Pas les seuls, mais ils le sont. C'est ce que vous dites dans votre livre.
Non, mais ils le sont, bien évidemment. Mais on voit qu'il y a un faisceau de convergence d'intérêts sur ce sujet, qu'il s'agisse des familles, qu'il s'agisse des politiques publiques. Et le drame, c'est que dans tout ça, il y a un absent qui ne s'exprime pas, qui est le patient lui-même.
Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les médicaments que l'on donne aux personnes qui sont atteintes d'Alzheimer sont totalement inefficaces et qu'il faut peut-être arrêter de les rembourser ?
Ils sont totalement inefficaces. La démonstration scientifique a été donnée par la Haute Autorité de Santé et l'étape médico-administrative que vous évoquez continue puisque en mars 2018, donc il y a quelques semaines, la Haute Autorité de Santé a fini le dossier, a bouclé le dossier médico-administratif de la radiation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le dossier est prêt à la signature de la ministre.
Mais à l'époque, on se souvient, la ministre de la Santé d'alors, c'était Marisol Touraine, ne s'était pas rangée à l'avis de la Haute Autorité de Santé. Est-ce que vous pensez que l'actuel gouvernement pourrait s'y risquer. Et je parle bien de risque.
Dès lors qu'Agnès Buzyn ne cesse de parler de la pertinence des actions de soins comme finalement axe de politique de santé, elle se doit de dérembourser, puisque justement ce qui a été démontré par la Haute Autorité de Santé, c'est la non-pertinence de ces médicaments.
Mais ça fait longtemps que c'est le cas, ça fait depuis au moins 2 ans.
Oui, mais voilà, il y a des courages politiques qui existent et d'autres qui n'existent pas. C'est vrai que c'est un sujet terriblement sensible. On voit bien que notre position, qui finalement est ce regard critique porté sur les 50 dernières années, est une position qui dérange un peu, qui bouscule. C'est tellement simple pour tout le monde, que ce soit les familles ou que ce soit les médecins, de dire que c'est une maladie. Réinsérer ce sujet dans le parcours du vivant normal, c'est bousculer beaucoup de choses et c'est aussi poser une question compliquée à l'heure où on se pose la question du financement de la dépendance.
Et le financement de la recherche justement, parce qu'il y a une question qui se pose, c'est qui paye la recherche pour les médicaments contre les troubles cognitifs associés à Alzheimer ? Est-ce que ce sont les laboratoires, donc le privé, ou est-ce que c'est aussi le public ?
Actuellement, c'est essentiellement le privé. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les grands laboratoires sont en train, les uns après les autres, de fermer tous leurs laboratoires de recherche autour du déclin cognitif. C'est-à-dire que après cette première génération de médicaments qui est arrivée dans les années 90, une deuxième génération a été testée au cours de la première décennie des années 2000. Et ça a été, tout ça a été des échecs absolus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'industrie du médicament se désengage. Alors, il reste une petite recherche académique, mais les modèles physiopathologiques, nous ne les avons pas. Et donc, on n'a aucune piste pour mettre en avant des thérapeutiques.
Merci beaucoup, Olivier Saint-Jean, d'être passé dans nos studios. Je rappelle que vous signez donc Alzheimer, le grand leurre, avec Éric Favreau, qui est paru aux éditions Michalon.